Bonsoir, province du Nord Kivu. Après une brève accalmie observée dans le territoire de Rutshuru, des affrontements ont repris hier mardi entre l'armée de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans la localité de Kanombe, tout près de Kabaya, affirment plusieurs sources locales. Des tirs nourris ont été entendus jusqu'au soir de mardi et ont provoqué une psychose dans la région, ce qui a occasionné un déplacement massif des populations toute la soirée. Des sources dans la région affirment que des rebelles du M23 auraient renforcé leur position en troupes et à munitions, ce qui ravive l'inquiétude de la population. Quelle analyse faire de cette nouvelle évolution de la situation au front entre FRDC et M23 dans la province du Nord Kivu? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons pour vous Chaubert Agenonga, professeur de l'université de Kisangani et Université catholique du Congo, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, géopolitique et sociologie militaire, également chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Chaubert Agenonga, bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi ce soir, Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Professeur docteur et spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Et enfin, Christian Moleka, analyste. Vous êtes également coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Une accalmie relative est signalée ce mercredi dans la région de Kanombe, Kabaya, près de Rutshuru, province du Nord Kivu, territoire de Rutshuru. C'est après des affrontements hier entre les FRDC et la rébellion du M23. Le porte-parole des opérations Sokola 2 affirme que les FRDC ont déjoué une infiltration des rebelles et leurs alliés. Le colonel Guillaume Njike précise que la situation est sous contrôle. Toutefois, au moins 5 villages de la zone se sont vidés de leur population qui se sont mises à l'abri des tirs. Alain Irung.
Après une brève accalmie observée lundi soir, les affrontements ont repris dans la matinée hier mardi entre l'armée et les rebelles du M23 dans la localité de Kanombe, tout près de Kabaya, affirment plusieurs sources locales. Des tirs nourris ont été entendus jusqu'au soir et ont provoqué une psychose dans la région, ce qui a occasionné un déplacement massif des populations toute la soirée. C'est notamment la population de Kabaya, Kanombe, Nkonkwe, Rubumba et ailleurs. Désemparées, celles-ci se sont dirigées vers Rumangabo Monument, Katale, Bushenge et Bugomba sur l'axe Goma-Rutshuru. Des sources dans la région affirment que les rebelles du M23 auraient renforcé leur position en troupes et munitions, ce qui ravive l'inquiétude de la population.
Chaubert Agenonga, professeur de l'université de Kisangani et université catholique du Congo, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de sociologie et de géopolitique militaire, également chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo GEC. Alors, la position officielle des autorités congolaises, nous venons de l'entendre, mais à gauche et à droite, vous avez sans doute pas manqué d'entendre que certains autres territoires, certains autres endroits au-delà des positions autrefois connues des M23 avaient été récupérés par les M23. De ces différentes allégations et versions, qu'est-ce qui, selon vous, à ce stade, semble être la bonne?
Oui, ce qui est évident, c'est que la situation sécuritaire demeure volatile dans les territoires de Rutshuru. On a constaté ces derniers temps que Il y a eu des affrontements entre les FRDC et le M23, certainement. Mais ces affrontements interviennent curieusement dans le contexte où le gouvernement de Kinshasa et celui de Kigali ont décidé de réactiver la commission mixte entre les deux pays. Et c'est au sein de cette commission que pourtant une solution négociée devrait être trouvée. et à la problématique du M23, mais en même temps, sur le terrain, le constat que l'on est en train de faire, pendant que les partis semblent afficher leur volonté de dialoguer au sujet du M23, l'on s'aperçoit que ces derniers semblent par contre s'inscrire dans la logique de la canonnière. Donc le M23 cherche plutôt à exercer de pression militaire sur la République démocratique du Congo, sur le gouvernement congolais.
Professeur, ça, je pense que nous l'avons compris. Mais vous qui monitorez de très près ces questions et cette situation, à l'heure où nous faisons cette émission, qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Est-ce que les M23 sont restés dans leur position anciennement connue d'il y a par exemple 2 semaines, un mois, ou ce qui n'est pas encore dit ou qui le sera plus tard, est-ce que les M23 ont conquis de nouveaux espaces à ce moment où nous parlons?
Oui, sur le terrain, comme je le disais, la situation est volatile, mais ce que l'on doit retenir, c'est que les M23 ne plus rester dans sa position initiale, c'est-à-dire dans la cité de Bounagana et dans les environs. On a noté quand même que les M23 a tenté quand même de conquérir un certain nombre d'entités, et on a noté en même temps que le FADC ont fourni des efforts pour les contenir, mais à l'heure qu'il est, évidemment, la situation reste délétère, la situation sécuritaire reste délétère, elle est préoccupante, elle est marquée par des affrontements entre le FADC. Telle est la situation qui a été vécue hier, vous l'avez noté, et qui a provoqué d'ailleurs le déferlement massif des civils dans cette région.
Et est-ce que on sait expliquer qu'est-ce qui peut justifier cette espèce d'avancée hein, des M23? Pourquoi dans ce feuilleton, dans ce monitoring de la situation au jour le jour, on a plus l'impression que c'est le M23 qui l'emporte, qui a le dessus sur la situation, plutôt que les FRDC? Et pourquoi, si c'est le cas, les FRDC n'ont-elles pas réussi au jour d'aujourd'hui à faire reculer sensiblement les M23, voire les expulser du territoire national?
Oui, le diagnostic sur le terrain démontre clairement que les FRDC n'ont pas réussi à déloger le M23. Ça, c'est une évidence. Mais en même temps, on constate que le M23 voudrait davantage conquérir des territoires pour négocier en position de faiblesse. Donc, pour contraindre le gouvernement congolais à négocier avec lui, mais aussi à répondre à ses revendications. Mais ce qui paraît de plus en plus déconcertant, c'est le fait que le Rwanda, qui est vertement accusé de soutenir le M23, et semble s'inscrire dans la logique du dialogue avec le gouvernement congolais. On l'a noté, et le 6 juillet dernier, Kinshasa et Kigali ont tenté quand même de trouver un compromis pour que les hostilités cessent dans la région contrôlée par les M23, et que ces derniers puissent se retirer, notamment de Bounagana, ce qui n'a pas pu être chose faite. Donc, malgré que le gouvernement, de part et d'autre côté, essaye de négocier, on s'aperçoit que sur le terrain, la situation semble loin de s'apaiser.
Est-ce que pour vous, c'est le Rwanda, parce que on sait que le Rwanda ne reconnaît pas être derrière le M23, mais c'est le Rwanda qui négocie avec ou qui dialogue avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. On comprend donc ces deux positions en flou, mais vous pensez que dans la réalité, c'est le Rwanda, pour justement avoir une certaine mainmise dans ses échanges avec le gouvernement congolais, qui a décidé de pousser un peu plus loin ses soutiens M23, ou c'est le M23, comme ce groupe essaie de le dire tout le temps, qui a tout seul décidé de prendre les choses en main?
Oui, on note sur le terrain que les rebelles du M23 sont constitués pour l'essentiel des anciens rebelles qui étaient chassés depuis 2013 du territoire congolais et qui ont trouvé refuge au Rwanda et en Ouganda. Et aujourd'hui, si l'on s'en tient au au niveau d'armement dont on dispose le Rwanda. Et vous avez suivi récemment, la MONUSCO était en train de déclarer que les M23 avaient de plus en plus des armes en sophistiqué. C'est une preuve flagrante selon laquelle le M23 est soutenu par les puissances régionales. Et par ailleurs, je voudrais ajouter que la cité de Bunagana a été conquise via le territoire ougandais. Donc, il n'y a pas que le Rwanda qui doit être mis en cause, mais aussi l'Ouganda. À mon humble avis, ces deux puissances sont certainement derrière le rebelle du M23.
Mais professeur Agenonga, professeur Agenonga, est-ce que dans la reprise des hostilités notées ces dernières heures, est-ce que c'est le M23 de sa propre initiative qui l'a déclenché, ou vous pensez que justement les soutiens du M23, les vrais commanditaires de ces mouvements, c'est eux qui ont donné le feu vert à leurs actionnaires sur terrain pour pouvoir avoir un peu plus d'influence dans les échanges avec le gouvernement congolais?
Mais on ne saurait ni confirmer ni infirmer si c'est sur l'instruction du Rwanda que le M23 a repris les hostilités. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le M23 cherche Mordicus négocier directement avec le gouvernement congolais, et le M23 ne voudrait pas voir que son sort soit décidé entre le deux capitales, mais cela apparaît en même temps comme une sorte de stratagème du M23 visant à dédouaner le Rwanda pour faire croire à l'opinion que il ne constitue pas un mouvement soutenu par le Rwanda, mais plutôt un mouvement congolais.
Merci Chaubert Agenonga, professeur de l'université de Kisangani, l'université de l'université catholique du Congo. Dadi Salé, professeur spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo et d'Afrique. D'entrée de jeu, quelles sont, à 7 heures hein, où nous faisons cette émission, les informations que vous avez sur ces derniers développements au front entre l'armée de la RDC et les rebelles du M23?
D'entrée de jeu, ce sont les mêmes informations qui ont été effectivement données. Aujourd'hui, il y a accalmie. Hier, déroute, effectivement, depuis des soirs un peu, il a été signalé des reprises un peu d'une façon sérieuse, des combats entre les FARDC et les rebelles. Tout ça, ça semble être vrai. Et qu'on comprend que, comme ça a été dit, il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de gens qui se sont déplacés, effectivement, de Kabaya, de Kanombe, Mkongwe, au Bunga. Donc, tout ça, c'est dans les groupements pratiquement des Kisigan.
Professeur Dadi Salé, est-ce qu'on peut dire de manière claire si ça signifie que des nouveaux espaces ont été récupérés par le M23 au détriment de l'armée régulière ou pas?
Oui, malheureusement, non. Oui, malheureusement, oui, plutôt. On peut le dire de manière claire, noire et blanc. Ça a été le cas, puisque là nous parlons plutôt de Rumangabo qui est menacé. Mais depuis ce matin, c'est vrai qu'il y a accalmie, et il faut bien noter que Rumangabo, c'est à moins de 50 kilomètres de la ville de Goma, et que c'est parmi les grands camps militaires. Et que donc nous pensons que malheureusement, si les gens se sont déplacés, et nous parlons de villages cités. C'est-à-dire que c'est toute la population pratiquement qui existe. Donc les informations ne sont pas 100% claires, mais nous pensons que les populations ne existent pas inutilement. Donc on ne sait pas exactement qui contrôle 100% Kabaya, Kanombe, Konkwe, Rumba. Donc nous pensons malheureusement qu'ils ont gagné un peu de terrain pour menacer des positions exactement des RDC, que nous félicitons, qui continuent à tenir. Et que malheureusement, aujourd'hui, comme on l'a dit, il n'y a pas eu d'affrontement. Donc on ne peut pas dire que le FARDC ont récupéré encore des espaces dans ce sens-là. Notre information nous indique qu'il n'y a pas vraiment eu d'affrontement.
Alors, quand l'armée nationale dit qu'elle a déjoué les infiltrations du M23, en vocabulaire plus simple, vous pensez que l'armée voulait dire quoi?
Bon, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en vocabulaire simple, c'est une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que les rebelles ont la capacité d'attaquer et d'essayer de gagner du terrain vers encore des terres et des endroits qui étaient conquis par nos phares d'été. Donc, ces rebelles-là ont du courage. Ces rebelles-là veulent continuer à conquérir et on ne sera pas étonné des prix Rucho et puis Goma, etc. Donc, il faut prendre... C'est ça, effectivement, le langage un peu militaire qui a été donné. Parce que quand le rebelle essaye de pénétrer et qu'effectivement, on félicite l'armée, il y a des joués donc contre c'est eux. C'est eux qui sont en train d'attaquer. C'est un peu comme si ce n'est pas notre armée qui est en train de les attaquer pour les déloger. C'est eux qui sont en train d'attaquer nos positions pour nous déloger. Je pense que c'est comme ça que j'interprète en langage simple.
Dadi Salé, si on met de côté la langue de bois, beaucoup d'observateurs disent et savent désormais clairement que les M23 sont soutenus par les pays proches de la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda sont cités. Vous pensez que cette reprise d'action, c'est les deux soutiens qui les ont commandés ou vous pensez que les rebelles eux-mêmes ont décidé qu'ils vont agir très librement et ils vont avancer?
Comme vous dites, sans langue de bois, toutes nos informations prouvent à suffisance qu'il y a des renforts du côté d'abord ougandais, ça va, et puis du côté rwandais. Donc, je pense que nos informations sont des informations des Congolais qui sont sur place, sur le terrain, s'attendent à confirmer cette thèse. Sans langue de bois, le M23 n'est rien sans l'Ouganda et le Rwanda est un peu cette force-là qui tend à être régionale et internationale. Non, le M23 c'est quoi? Le M23 ne peut presque rien. Cette fois-ci, j'espère que le M23 ne pourra pas dire qu'ils ont ravi des armes sophistiquées que la MONUSCO a reconnues qu'ils ont des phares d'été. Parce qu'apparemment, selon la MONUSCO, ni les phares d'été, ni la MONUSCO ne possède ces armes-là. Donc, la M23 ne va pas faire cette blague-là en disant, comme ils le font dans des vidéos, en communiquant qu'ils ont ravi les armes auprès des FARDC. Donc, c'est reconnu. Les armes sophistiquées, c'est contrôlé au niveau mondial. Donc, au fond, ce sont des confirmations. Et je pense qu'on a un problème d'un leadership. Des leaderships qui communiquent mal. C'est un peu comme si nous sommes en train d'avancer à tâtons. Nous ne savons pas condamner 100% à maintenir la position et débattre contre ces gens-là. Le Rwanda ne déclarera jamais, jusqu'à preuve du contraire, ça va, que nous sommes en train d'attaquer la République démocratique du Congo. C'est une certaine diplomatie naïve. S'il vous plaît, n'attendons pas ça de l'Ouganda. Attendre que l'Ouganda puisse dire oui.
Docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique, professeur Dadi Salé, mais qu'est-ce qui explique que l'armée de la RDC, hein, qui est sur le qui-vive depuis tout ce temps-là, qui regarde, qui observe, qui tente justement de déjouer son ennemi, n'a pas eu le temps ou n'a pas su contrer justement ce nouvel activisme de M23?
Encore une fois, sans langue de bois, comme vous le dites, l'armée, nous avons une armée républicaine qui s'efforce et qui fournit énormément d'efforts. Je pense que nous devrions plutôt nous poser des questions sur nos stratégies de défense. Et quand je parle de stratégie de défense, nous n'avons qu'un seul garant de la nation et un seul chef des armées, qui est le président de la République, et c'est lui qui donne l'instruction. Vous savez, le peuple congolais a réclamé depuis un temps l'application de l'article 63 de la Constitution, parce qu'effectivement, il y a quelques instants avant l'émission, j'étais encore avec des jeunes des Rutshuru, parce qu'on est là, des jeunes de Kasindi, etc., des pays, des étudiants, qui sont prêts à prendre les armes, mais dans le phare d'été, qui sont prêts à défendre la nation. On a besoin, un peu comme je l'ai dit, d'une dimension militaire qui doit dominer la dimension diplomatique et la dimension politique et judiciaire. Donc la première dimension, c'est la dimension des dissuasions. Jusque-là, nous ne semblons pas avoir assez de dissuasions. Et ça ne peut se faire de près nous sentons le gouvernement congolais monter, et c'est ce que nous encourageons, en pointant du doigt les responsabilités et en prenant certaines décisions, nous les encourageons, et jusque-là, il n'y en a pas assez. Si le gouvernement congolais prenait une, comme ils l'ont dit à un certain moment au Conseil, je pense, de la Défense, ça va, mais les actes ne suivent pas. Il faut des très grandes décisions. La première grande décision qui est constitutionnelle, c'est l'article 63 et l'article 64, c'est-à-dire déclarer la guerre. Si ça ne se fait pas, c'est-à-dire que nous ne serons pas prêts. Nous serons encore surpris. Et on dira, oh, on est surpris que le M23 nous ait attaqué parce qu'on a des dossiers à Luanda, à Nairobi. Non. Je peux vous assurer que l'option diplomatique est une option de troisième, quatrième niveau. Parce que nous le savons très bien, noir et blanc, que les Rwandais ont montré leur couleur clairement, du moins le gouvernement rwandais. Les Ougandais ont montré leur couleur clairement. C'est plutôt la République démocratique du Congo qui continue à avoir un peu une diplomatie que j'appelle naïve. Et la diplomatie, ce n'est pas les individus, c'est tout.
Une
diplomatie un peu naïve, ça va, où on ne prend pas les grandes décisions. On prend des petites décisions et on espère négocier. Il n'y a pas grand-chose à négocier avec les Rwandais, s'il vous plaît.
Il faut monter en gamme dans la fermeté.
Monter en puissance. Et par exemple, comme j'ai décidé l'article 63, comment ça peut s'appliquer? Si les Rwandais comprenaient que tous les jeunes de Kinshasa, papa, maman, et que toute la dimension politique, tous les politiciens étaient concentrés, ça va, à la défense de la nation. Là, nous appelons par exemple Moïse Katumbi, nous appelons Matata, nous appelons Pemba, nous appelons le président en chef lui-même, tous les leaders qui se disent, là nous nous battons. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Donc, la dimension politique, franchement, les leaders qu'on a, je me pose des questions s'ils comprennent que la situation est très grave. Ils ne font pas grand-chose, à part écrire aussi sur WhatsApp. Non, c'est une mobilisation nationale et politique qui doit se faire contre effectivement tous les assaillants, contre les M23. Donc, la dimension politique, jusque là, franchement, le leadership politique semble être trop faible et que je suis désolé de le dire ouvertement. Maintenant, la dimension judiciaire, comment est-ce que tout le monde, tous les rebelles qui sont plutôt remerciés par le gouvernement, les rebelles sont à l'aise, les M23 est à l'aise, parce qu'ils savent qu'on va négocier avec eux. Donc la dimension judiciaire, on devait déjà avoir autant de condamnations, ça va, par rapport un peu à ce que nous parlons plus de 6 millions de Congolais qui sont déjà décédés. Donc ça donnait peur à toute personne qui attaquerait la République démocratique du Congo.
Merci. Merci professeur Dadi Salé. Nous allons revenir encore vers vous avant de conclure totalement l'émission pour écouter le supplément de solutions qu'il faut apporter pour faire changer les choses à cette situation. Je note et pour les auditeurs que nous sommes en entretien avec vous depuis la province du Nord Kivu justement. Christian Moleka, analyste, coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo, sans donner une cotation aux deux professeurs qui ont parlé juste après vous, mais que pensez-vous de leurs analyses et qu'ajouterez-vous en plus pour nous aider à mieux comprendre la situation sur le terrain?
Merci beaucoup pour l'opportunité. Eh bien, je partage certains éléments qui ont été avancés avant moi, notamment le fait que le gouvernement ayant levé l'option de négocier, tout du moins les options étant sur la table de négociation, pour le M23, c'est un moyen d'ajouter la pression et de venir en négociation en posture avancée. On le sait, l'une des stratégies depuis très longtemps, c'est le talk and fight. Ça veut dire autant on est en train de parler, autant on est en train d'avancer militairement. Et donc le rapport de force militaire va dénaturer en partie le rapport de force sur le terrain. Donc le talk and fight, ce n'est pas nouveau. C'est une vieille méthode, une vieille pratique appliquée depuis pratiquement de longues années. Et à chaque moment qu'on est en phase de négociation, on renouvelle pour imposer un nouveau rapport sur le terrain. Mais il y a deux éléments que je voudrais ajouter. Le premier élément, c'est que l'intervention, de fait, la montée en puissance du M23 intervient dans un contexte particulier. C'est la crise de la MONUSCO. On le sait. Depuis un certain temps, la MONUSCO avait appuyé les FARDC dans sa volonté de reconquête, que ce soit de Bounagana. Et donc, au moment où l'opinion intérieure est divisée, au moment où la tension médiatique tourne autour de la MONUSCO, au moment où les bavures de quelques contingents vont mettre à mal une coopération militaire entre les FARDC et la MONUSCO, c'est le moment que choisit le M23 pour attaquer et donc en quelque sorte tester également les capacités notre armée à tenir peut-être seule dans le rang.
Mais Christian Moleka,
à un moment où l'opinion intérieure n'est pas assez mobilisée.
Christian Moleka, est-ce que ce n'est pas trop simpliste de mêler tout de suite les accrochages qu'il y a eu avec la MONUSCO à cette situation? Je pose cette question parce que je me dis si les populations civiles, l'opinion médiatique peut se focaliser de temps en temps sur d'autres actualités, y compris donc ces tensions qu'il y a eu ces derniers jours avec la MONUSCO, mais les militaires, eux, ne doivent en principe pas regarder la télévision et écouter la radio, sauf les commandements qui viennent de leur chef.
Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je dis, lorsque nous remettons en question la collaboration entre la présence et le retrait des troupes de la MONUSCO, il y a une dimension de la collaboration militaire qu'il faut également mettre sur la table. Et que l'incertitude stratégique que l'on met aujourd'hui autour de l'avenir de la MONUSCO aura de l'incidence dans les capacités opérationnelles sur le terrain. Et donc, pour le 1-23, c'est aussi un moyen de tester l'efficacité de la coopération encore sur le terrain. Et à un moment, du fait que l'opinion intérieure qui était assez élevée contre l'agression rwandaise il y a quelques mois, avec l'agression du M23 il y a quelques mois, ne l'est plus aujourd'hui, ne prendrait pas la même posture pour décrier ce qui a été décrit il y a quelques mois. Donc on a une pression intérieure qui a baissé, une opinion intérieure qui est ailleurs, et donc une reprise de combat aujourd'hui ne recevra pas la même pression populaire qu'il y a quelques mois. Deuxièmement, il y a un fait que je voudrais ajouter également, c'est le fait qu'il y a donc quelques jours, nous recevrons la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui va passer par Kinshasa et qui passera également par le Rwanda. On le sait, la position américaine depuis très longtemps a toujours été celle d'un partenariat stratégique entre le Congo et le Rwanda, donc une approche bilatérale fondée sur la confiance. Et donc une visite prochaine d'un secrétaire d'État américain ne manquera pas d'aborder la question du M23 et donc de l'enjeu du retour de la confiance entre le Rwanda et Kinshasa. Et donc, y reprendre les armes aujourd'hui, c'est également mettre de la pression dans l'agenda diplomatique et s'inviter dans les débats qui va bientôt commencer, je crois, d'ici quelques semaines avec l'arrivée d'Anthony Blinken. C'était également un moyen pour eux de se maintenir dans l'agenda diplomatique qui se dessine de plus en plus dans la sous-région.
Alors, puisque le M23 est présenté souvent comme recevant l'appui du Rwanda et de l'Ouganda, vous pensez que l'Ouganda aussi est toujours dans cette dynamique? Si oui, ce serait quoi son profit alors dans ce cas?
Bon, manifestement, l'instabilité du Congo profite à tout le monde, sauf aux Congolais. C'est-à-dire un Congo instable, un no man's land, entretient les réseaux économiques tournés vers l'extérieur. Un Congo instable, c'est la possibilité pour les réseaux économiques et minières de se tourner non pas vers l'ouest, mais vers l'est, en passant par les pays voisins. Et donc, cette façon d'entretenir l'instabilité à l'est du pays est économiquement profitable pour tous les réseaux qui bénéficient des réseaux économiques partant du Congo, y compris en Ouganda. On le sait, tous les rapports présentés depuis très longtemps, qu'il s'agisse des rapports mapping, un index des officiers ougandais, très proches d'ailleurs du pouvoir, qui sont liés dans les réseaux économiques à l'est du Congo. Donc il y a cette dimension économique qu'il ne faut nullement négliger. Et sur cette question-là, il y a donc forcément des points de rapprochement entre l'Ouganda et le Rwanda.
Alors, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, Christian Moleka, vous pensez que les deux soutiens des M23 ont délibérément choisi d'ignorer les autres engagements qu'ils étaient déjà en train de prendre ou qu'ils avaient déjà pris, la négociation ouverte avec la RDC, notamment avec Nairobi et puis Luanda. Ont-ils délibérément, vraiment à vos yeux, décidé d'ignorer ces autres engagements au profit de la pression qu'ils doivent mettre sur l'agenda du secrétaire général, secrétaire d'État américain?
Mais je crois qu'ils sont toujours dans leur propre agenda. Ça veut dire que la position américaine a toujours été celui d'une coopération bilatérale, une coopération bilatérale en retour de la confiance entre le Congo et les pays voisins. Ce retour à la confiance va mener à une coopération stratégique dans les questions sécuritaires, c'est-à-dire réactiver les mécanismes bilatérales de contrôle des frontières, l'échange des renseignements, ou même d'opérations conjointes. On l'a fait dans les passés avec sa opération Roudiès, sa problématique de menace sécuritaire FDLR FOCA qui est le Congo doit régler. Et donc cette, le 1-23 est un moyen, je dirais, de pression exercé sur le Congo pour nous amener à régler un agenda, je dirais, sécuritaire du Rwanda. Et pour les autres, c'est un atout économique pour maintenir une zone de stabilité. Mmh. Sur ces points-là, il y a deux points de convergence avec leurs intérêts. C'est aux Congolais de réussir à imposer
la tendance.
Agenda qui nous sorte de cette obligation bilatérale.
Merci Christian Moleka, puisque nous sommes en train d'échanger avec vous, donc nous ouvrons aussi notre standard et vous serez le premier à y faire face. Vous allez donner votre avis après le commentaire de cet auditeur, Moïse.
Moïse Angui, depuis la ville de Goma en province du Nord Kivu. Cette résurgence de l'insécurité grandissante dans la partie nord de notre province, le Nord Kivu, perpétrée par les inciviques et rebelles terroristes du M23, n'est qu'une conséquence d'une politique de défense centrée sur la défensive plutôt que l'offensive. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on, y égard à ce qui précède. Je pense qu'il y a lieu pour hiérarchie de notre armée de tirer toutes les conséquences qui en découlent. Nous devons désormais avoir un système de défense dissuasive, mais aussi, je propose au chef de l'État, président de la République, celui Tshisekedi, et au premier ministre, chef du gouvernement, de voir dans quelle mesure ériger le plus possible les quartiers généraux de l'état-major général ici au Nord Kivu, aussi renforcer les effectifs des éléments qui combattent au front. Il y a péril à la demeure. Merci.
Christian Moleka.
Bon, une posture défensive, je ne pense pas trop. Je pense plutôt qu'il nous faut aller au fond du problème.
Allez-y.
Je suis en train de dire que pour moi, il faut aller un peu plus au fond du problème. C'est-à-dire, nous avons une réforme. Il faut parfois aller au fond du problème. C'est que nous n'avons pas, à ce jour, depuis pratiquement 20 ans, mis en place la réforme de la. Du service d'enseignement, mais ce qui nous surprend, c'est qu'à un moment donné, nous avons des problèmes de défense en enseignement. Et puis, en même temps, notre problème, il n'est pas uniquement militaire, notre problème, il est surtout diplomatique. C'est-à-dire, les grands décideurs du monde, malheureusement, d'obédience anglo-saxonne, ont une lecture, une compréhension des enjeux qui n'est pas favorable aux intérêts congolais. Ce qu'il nous faut réussir à faire, c'est avoir un lobbying fort pour sanctionner les États qui soutiennent ces mouvements-là et imposer une ligne de conduite diplomatique qui défende les intérêts du Congo. Notre problème, c'est à ce niveau-là.
Mais Christian Moleka, nous faisons
trop attention sur les acteurs locaux, oui.
Dans le débat de ce soir, il y a quand même Moïse, cet auditeur, mais il y a aussi le professeur Dadi Salé, qui estime que la diplomatie peut même ne pas venir dans ce contexte d'aujourd'hui, et même si la diplomatie devait venir, ça devait être la dernière des étapes à mettre sur la table. Vous tenez mordicus que non, que la RDC devrait plutôt plus utiliser la diplomatie.
Mais parce que nous sommes tout le temps focus sur les acteurs locaux, nous ne voyons pas les silence acteurs. Ça veut dire que cette guerre, elle est économique. Cette guerre trouve intérêt non pas uniquement les acteurs locaux. Il y a des grands acteurs décideurs qui ne sont pas au niveau local, mais qui sont les vrais décideurs de la guerre et qui peuvent s'impliquer et mettre fin à la guerre sans qu'on tire un seul coup de feu. C'est ça la dimension que les gens ne veulent pas voir. Nous nous focalisons sur le pays voisin, nous nous focalisons sur le M23, mais qui sont les consommateurs finaux des minéraux qui quittent le Congo? C'est pas les pays voisins. Ce sont eux les vrais décideurs. Et c'est eux qui sont capables, si on peut les influencer, de mettre fin à la guerre sans un seul coup de feu. Comment a-t-on réussi à mettre un terme au M23 en 2014? Pensez-vous que ce n'est pas la même armée qui a mis fin au M23 en 2014? Comment a-t-on fait pour sanctionner le Rwanda financièrement en 2014? Comment a-t-on fait pour que ce même Rwanda qui tenait le M23 ne le fasse pas en 2014 et que la FARDC puisse le démettre militairement? C'est ça les grandes questions sur lesquelles on ne semble pas répondre. Il y a la pression militaire qu'il faut maintenir. Oui, il faut efficacement armer les FARDC. Oui, mais il faut trouver les vrais lobbying et les vrais lieux d'influence de ceux qui sont les silence acteurs et qui sont le plus à décider de la guerre que les acteurs locaux sur lesquels nous nous accrochons finalement.
Merci Christian Moleka, professeur Dadi Salé, spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Nous allons écouter avec vous et pour vous cet auditeur Gaston.
Gaston Bilamo depuis Saint-Provence de la Tchopou. Il est illusoire de croire que le M23 ainsi que les autres groupes rebelles quitteront la partie est du pays tant que les tireurs de ficelles seront toujours infiltrés dans l'armée congolaise, voire dans certains organes de décision et d'appui. Nous devons tous comprendre que le fait que Bounagana soit jusqu'en séjour entre les mains du M23 ou le fameux plan de balkanisation qui tend à se matérialiser progressivement, cela met en cause tous les efforts consentis par l'armée nationale. Je crains que la population puisse perdre totalement confiance même envers les autorités qui sont censées assurer sa sécurité, parce qu'en dépit d'une série de sorties médiatiques du gouvernement pour vanter ses éventuels efforts allant dans ce sens, rien ne change. Au contraire, la situation se détériore davantage. Je pense que les décideurs ont encore beaucoup à revoir à l'interne.
Dadi Salé.
Oui, l'ami n'a pas 100% tort, mais nous devons faire avec. Ce qu'il vient de dire, c'est que nous savons que l'armée que nous avons, il y a eu des 1+4, c'était des rebelles qui se sont mis ensemble. On a intégré beaucoup de rebelles et qu'effectivement, il y a cette réforme de l'armée qu'il faut faire. Ça, c'est sûr et certain. Mais effectivement, c'est le rôle du garant de la nation. Donc, un a fait 18 ans. Et maintenant, M. Félix Sekedi, son excellence, il vient de faire 3 ans et demi. C'est son rôle, effectivement, de laver l'armée, comme on dit, d'avoir une bonne politique de défense. Ce que l'armée vient de dire, pas dans le cadre de ce que nous avons dit, c'est-à-dire avoir une meilleure politique de défense. Et la meilleure politique de défense, c'est qu'on ne doit pas avoir beaucoup de flèches dans l'armée. C'est normal. Donc, il n'est pas l'inverse. Je suis totalement d'accord avec lui.
Mais que pensez-vous de l'avis, hein, ce n'est pas pour vous mettre en opposition totalement, mais c'est juste pour avoir votre analyse. Que pensez-vous de l'avis de Christian Moleka qui lui place la diplomatie en tête des actions à mener parce que selon lui c'est plus holistique et que ça viserait à toucher les vrais acteurs tapis sous l'ombre qui commanditent l'insécurité en République démocratique du Congo et pas que les acteurs locaux que justement l'armée et la guerre pourrait vaincre, mais pas ces acteurs lointains tapis sous l'ombre, les gros poissons cachés.
Sur le fond, nous sommes d'accord avec M. Christian, parce qu'au fond, le vrai commanditaire peut être aux États-Unis, en France, en Angleterre. Ça, nous le savons très bien, et il nous faut une diplomatie pour y arriver. Mais là où peut-être nous ne sommes pas d'accord, mais ce sont des petits points de vue, un peu stratégiques. Si moi, je mets la défense, la diplomatie après, parce que effectivement, pour que ces grandes puissances-là nous écoutent pour l'instant, par rapport, toutes choses étant égales par ailleurs, par rapport aux accords qu'ils ont avec l'Ouganda, les Rwanda, et que nous connaissons, ça va, il faudra que nous puissions avoir la dissuasion. Je pense que M. Christian l'a dit lui-même, il s'agit ici des rapports de force. Alors écoutez, si vous allez auprès des Américains, et que dans le sens des rapports de force, vous ne représentez rien, après dire, une diplomatie sans une présentation de dissuasion ne vaut rien. Vous aurez toujours des miettes. Et c'est ce que la République démocratique a eu à Luanda, c'est ce que la République démocratique du Congo a eu à Nairobi. Et c'est ce que nous avons presque dans tout. Même si vous allez aux États-Unis, vous négociez en position de faiblesse, vous n'obtenez rien. Et je suis content parce que M. Christian lui-même l'a démontré. Il a dit que le 1-23 avec le Rwanda, sachant qu'il y a une mission des États-Unis importante qui vient, ils veulent la dissuasion, ils veulent mettre la pression. Mais M. Christian, c'est ce que nous vous demandons, effectivement. Et nous devons mettre en premier lieu, n'est-ce pas, organiser notre politique de défense pour mieux négocier. Parce qu'on ne négociera jamais en position de faiblesse si on est en train de nous taper sur le terrain, si on ne représente rien sur le terrain, on n'a aucune dissuasion, il n'y a aucun bureau où on vous recevra avec force.
Merci.
Donc, je pense que c'est une question de... Mais c'est qu'il a dit en...
Vous vous retrouvez plus ou moins. Chaubert Agnonga, professeur de l'université de Kisangani, université catholique du Congo, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire, également chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo GIEC, en sigle pour vous, cet auditeur, Isaac.
Isaac Bampori qui débouche au sud Kivu. Pourquoi le gouvernement congolais se contente de la voie diplomatique alors que le fourbe gouvernement rwandais et ceux qui l'utilisent contre nous ne font que renforcer le M23? La RDC, elle, n'a-t-elle pas d'alliés militaires?
Professeur Chaubert Agnonga.
Oui, je pense premièrement, avant de compter sur des alliés militaires, nous devrions compter sur nos propres capacités. Et là aussi, je pense que le gouvernement congolais a péché de n'avoir pas doté le pays d'une armée dissuasive, d'une armée qui ait des capacités proactives. C'est le constat que nous avons fait sur le terrain. Par contre, la solution devrait passer par là. Il faut évidemment la montée en puissance de l'armée congolaise pour dissuader les mouvements subversifs. C'est pratiquement ces combats que nous avons perdus et c'est important que l'armée congolaise, que le gouvernement congolais puisse penser à investir davantage dans le secteur de défense et de la sécurité. Mais de l'autre côté, certainement nous savons que le M23 a des ramifications extérieures. Je l'avais déjà noté, le M23 est soutenu par les puissances extérieures. À ce titre, il me paraît aussi important que l'on recourt à la voie diplomatique pour qu'on exerce le maximum de pression sur le gouvernement rwandais pour qu'il retire ses soutiens au M23, mais certainement aussi à l'Ouganda qui est en train de jouer double G tantôt.
Ils soutiennent la RDC
au côté du gouvernement congolais, et alors que
ils ont des agendas personnels.
L'on constate que l'Ouganda est plutôt un allié du Rwanda. Oui, certainement, parce que il y a une certaine divergence d'intérêts. L'intérêt de l'Ouganda n'est pas forcément celui de la République démocratique du Congo. Et là aussi, nous constatons que tous ces acteurs qui sont derrière le mouvement subversif cherchent à fragiliser la République démocratique du Congo pour continuer à piller ses ressources. Ça, c'est une évidence. Mais il faudrait pas que les Congolais puissent tout le temps continuer à se plaindre. Nous devons monter des mécanismes susceptibles, bien sûr, de protéger nos territoires contre les agresseurs extérieurs. C'est cet effort qui a un peu manqué à l'appel. Je pense que le moment est venu pour que la République démocratique du Congo arrête de compter d'abord sur les alliés extérieurs et ensuite sur sa propre armée. Je pense que nous devons plutôt renverser la pyramide. Il faut suffisamment donner de moyens au gouvernement congolais, même si on devrait recourir à la diplomatie, mais cela ne voudrait pas pour autant dire que le gouvernement congolais doit baisser le bras.
Professeur Agnonga, oui. Comment, oui, de manière très équilibrée, juste et efficace, la RDC doit-elle ajuster les deux volets que vous tous, hein, les débatteurs de ce soir, vous avez indiqué, la capacité militaire d'un côté et la diplomatie de l'autre? Comment, de manière efficace, selon vous, les deux aspects doivent-ils être gérés? Peut-être c'est ça, justement, le problème. On sait que ces deux volets existent, mais comment l'ajuster ou les ajuster correctement pour avoir les résultats efficaces et définitifs?
Oui, les deux volets existent, c'est tout à fait évident, mais le constat que nous faisons sur le terrain, c'est qu'il y a, une certaine faille dans le dispositif sécuritaire, donc c'est ce qu'il faudrait corriger. Il y a un dysfonctionnement pour le moins déconcertant au sein de l'armée, et à mon humble avis, il faut commencer par le commandement. Ce qui pose problème, c'est aussi le commandement qui a accusé son inefficacité devant les caméras du monde entier. Le commandement est inefficace, bien entendu, mais aussi le militaire qui sont déployés au front. Je m'aperçois personnellement qu'il y a vraiment la nécessité de renforcer leur capacité opérationnelle, d'augmenter les moyens, bien sûr, aussi les effectifs. Ça, c'est important. Et d'un point de vue diplomatique,
c'est là où se trouve également le maillon faible de la République démocratique du Congo. On constate que tous ceux qu'on croyait être les alliés de la République démocratique du Congo l'ont abandonné dans une période aussi névragique que celle que nous sommes entrés de
traverser maintenant.
Il y a lié, effectivement. Il y a lieu évidemment de repenser notre diplomatie qui a déjà accusé ses faiblesses pour davantage
lui donner un peu plus d'énergie.
Les grandes puissances. Oui, justement, pour amener les grandes puissances dont les intérêts ne sont pas non plus en convergence avec ceux de la République démocratique du Congo, de bien s'aligner effectivement sur la position de la République démocratique du Congo.
Merci Chaubert Aguenonga, professeur. Merci également à votre collègue Dadi Salé, tout comme à Christian Moleka pour votre présence ce soir. Jean-Claude Nsiala et Kéline Kouté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.